théologie fondamentale par le père Philippe à Saint-Joutard, le 3 octobre 89.
Nous commençons un cours particulier. C'est ici le rapport de la foi et de l'intelligence et de la philosophie. Je crois que c'est très important pour éviter l'apologétique de faire ça. Croyez-nous quel sens. L'apologétique dans notre monde d'aujourd'hui ne peut plus être la même qu'au début de ce siècle. Alors, il faut bien comprendre ça. L'apologétique, ça change. Au début du siècle, il y avait une apologétique très particulière. Quand vous lisez ça aujourd'hui, vous souriez. Vous ferez lire au réfectoire. Ça ferait éclater de rire les gens. Que c'était absolument nécessaire. C'est curieux, ça. Et c'est très important, parce que si vous continuez de faire l'apologétique comme ça aujourd'hui, vous détruisez votre crédit d'homme de Dieu et de croyant. Et pourtant, il faut pouvoir répondre aux savants. Répondre, non pas pour dire qu'ils ont tort, mais pour la recherche de la vérité. Il faut répondre au psychologue. Il faut répondre à Freud. Il faut répondre aux évolutionnistes. Et je voudrais, dans la mesure du possible, je ne sais pas si on y arrivera, mais je voudrais que ce cours de théologie fondamentale, les rapports de l'intelligence et de la foi, puissent nous éveiller à ce problème très particulier de notre monde d'aujourd'hui, qui est très difficile. Je prends par exemple les dernières décisions du cardinal Ratzinger sur la fécondation artificielle. Beaucoup de savants ont dit « L'Église retombe dans le piège de la condamnation de Galilée. » Qu'est-ce que vous dites en face de ça? Quand vous serez en face d'un médecin chrétien, catholique, vous dire, mais je ne peux pas. Vous êtes responsable de sa foi en face de Dieu. Ça, c'est sûr. Vous devez essayer d'éclairer son intelligence d'homme savant. Et vous ne le ferez pas par une apologétique simpliste. Même par une apologétique qui s'appuie sur Leibniz, grand apologète, Leibniz. Il faut essayer d'avoir une philosophie beaucoup plus percutante que Leibniz. Donc une intelligence beaucoup plus réaliste et une foi contemplative. Celui qui n'a pas une foi contemplative et qui n'a pas une métaphysique très percutante ne peut pas répondre. Et donc on laisse ses savants à la dérive. Et il ne voit plus qu'une seule solution, je connais, c'est de quitter l'Église. Sinon je ne peux plus pratiquer. Et vous me laissez sur le bord de la route. Et vous continuez en tant que croyant. Il y a un problème très très aigu aujourd'hui. Et je crois que cette théologie fondamentale est faite pour ça. C'est pas l'apologétique. Théologie fondamentale. D'une certaine manière, c'est très difficile pour vous de la faire. que c'est un gros bagage théologique. Ce serait presque se faire en dernière année de la philosophie de la théologie, je crois. Mais on l'a fait ici, parce que peut-être que vous avez une foi contemplative suffisante pour pouvoir comprendre ces problèmes. Et vous avez une métaphysique embryonnaire, mais quand même assez percutante aussi pour comprendre. Et je voudrais beaucoup que dans ce cours, vous-même, du reste, puisqu'il faut y réfléchir, vous avez sûrement des contacts avec des milieux scientifiques. Certains d'entre vous, sûrement. Et devant ces milieux scientifiques, qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Alors, je pose le problème aujourd'hui de la théologie fondamentale, puis on verra un tout petit peu. Comment faire que ce cours soit pour vous, qui devez être des apôtres? Vous pouvez répondre. Vous savez, quand on fréquente un peu le milieu scientifique, et vous l'avez fréquenté, vous fréquenterez. Et les savants aiment mieux interroger des religieux. Combien de fois l'expérience? Nous avons demandé ça à tel prêtre, il a dit, oh, je peux pas vous dire. Oh, Ratzinger, vous savez, c'est le milieu romain. La réponse qu'on donne, c'est le milieu romain. C'est terrible de donner cette réponse, parce que c'est couper l'église du milieu romain, comme s'il y avait un milieu romain. Et il donne ces réponses-là. Alors ils s'adressent à des religieux parce qu'ils disent, eux, doivent, grâce à leur vie contemplative, avoir une foi plus pure et pouvoir, au point de vue de l'intelligence, aller plus loin. C'est ce que me disait il y a déjà un petit moment cette petite orthodoxe grecque, la première fois que j'étais en Grèce. Cette petite orthodoxe grecque qui faisait ses études de médecine. Et c'est de sa date, hein. C'était en 50. Devant tout le monde. J'étais devant les ruines. On était devant les ruines de l'abbaye des moines à Daphné. Puis elle était merveilleuse. Des ruines merveilleuses. Et des mosaïques très étonnantes. La mosaïque de la Dormition de Marie, tellement belle à la fenêtre. Devant tous les étudiants grecs, et les étudiants protestants, et les étudiants catholiques. Parce que c'était un voyage, pas du tout, pas un pèlerinage. On avait. L'université d'Athènes avait invité l'université de Genève à venir. Et l'université de Genève m'avait dit, est-ce que vous ne résisterez pas avec nous? Donc il y avait beaucoup de protestants, la majorité protestante, très peu de catholiques. Alors cette petite étudiante devant tout le monde dit, mon père, est-ce que demain vous pourriez entendre ma confession générale? Vous voyez, le sens orthodoxe devant la vie monastique. Elle m'a dit du reste, si je suis orthodoxe, c'est à cause des moines. La fidélité orthodoxe, c'est les moines. Ça fait comprendre des quantités de choses. C'est la vie monastique qui peut seule faire l'unité entre catholiques et orthodoxes. Et c'est vrai, ça, c'est par là qu'on les rejoint. La vie monastique contemplative, parce que nos papas sont incapables de rien comprendre à la science moderne. Et moi, je fais des études de médecine, 5e année de médecine. J'ai des tas de problèmes qui se posent à ma foi. Et je ne sais pas quoi faire. Et nos papas sont incapables. Ils peuvent chanter les vêpres, mais pas plus. Et nous donner l'absolution, mais ils ne comprennent pas. Nos moines, c'est difficile, nous, femmes, de les atteindre. On ne peut pas. Dans l'Église catholique, il y a ce phénomène d'une vie monastique apostolique. Et c'est ça qui nous manque. Ça m'a beaucoup éclairé, en 50, vous voyez. Et c'est vrai, c'est pas seulement elle qui m'a dit ça, mais des moines romains ont dit exactement la même chose. Qui étaient venus au seul joueur, je me souviens. Ils disaient, j'aime beaucoup la liturgie catholique, elle est simple. C'était très beau. Alors quand il m'a dit ça, je dis, dites-le devant tous les autres. Vous en êtes toujours tentés, séduits par la liturgie orthodoxe. Alors d'entendre un moine orthodoxe dire ça, j'aime beaucoup la liturgie catholique, elle est simple. Alors elle nous met tout de suite en face du mystère. Nous risquons de rester dans l'aspect un peu esthétique. Vous voyez ce problème très délicat, très difficile, avec le progrès énorme des sciences qui se sont faites dans le domaine physique, astronomique, dans le domaine surtout biologique, dans le domaine psychologique, psychanalytique. Tous ces domaines que nous devons regarder. Alors, dans la mesure où vous-même, vous avez entendu des objections, des questions, donnez vos questions au Père Gabriel. Parce que je crois que nous devons regarder ça très en face, dans une objectivité parfaite, pour parler à l'homme, démontrer qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi et l'intelligence humaine dans ses recherches scientifiques les plus poussées. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Alors il faut dépister où les contradictions peuvent apparaître et comment ces contradictions sont fallacieuses. C'est des apparences de contradiction, c'est pas de vraies contradictions. Voyez, le contrat gentilesse de saint Thomas devrait être réécrit aujourd'hui contre les gentilesses. Et le contrat gentilesse de saint Thomas, c'est le problème d'une théologie fondamentale. Qu'est-ce que l'intelligence humaine peut dire? Qu'est-ce que la foi vient de dire? Alors, évidemment, du temps de saint Thomas. Contra gentiles. Les gentils. Pas les Grecs. Plus exactement, les Grecs poussés dans la science actuelle, moderne. C'est très important. Alors, je vous rappelle d'abord qu'est-ce que représente une théologie fondamentale. Je vous ai dit hier l'analogie entre critique et théologie fondamentale. Alors on va étudier cette qu'elle progresse. Elle peut constamment voir qu'un théorème n'était pas tout à fait juste, il faut le préciser. Alors elle avance comme ça, dialectiquement, en opposant certaines choses. Mais elle ne critique pas ses fondements. Le mathématicien, en avançant, est toujours plus proche de ses fondements. Mais il ne peut pas les critiquer. La sagesse philosophique doit pouvoir se critiquer et se défendre. C'est pas de la sagesse philosophique. Et vous voyez pourquoi ? Parce que les mathématiques ne sont pas la connaissance la plus élevée. C'est la connaissance la plus certaine. Et le philosophe le reconnaît. C'est la connaissance la plus certaine. C'est pour ça que le critère, c'est le critère de certitude. Et le critère premier qui qualifie l'intelligence, les mathématiques deviennent la science première. Le modo geometrico de Descartes pour les fois d'accès vis-à-vis de Dieu est très significatif. Pour Descartes, tant qu'on n'a pas donné une démonstration modo geometrico, on n'a pas atteint la perfection. Parce que le critère est la certitude. Les mathématiques, c'est les connaissances les plus certaines, d'où leur séduction. C'est très séduisant, les mathématiques. Et les sciences modernes dépendent des mathématiques dans leur caractère de certitude. Autrement, elles restent expérimentales, descriptives. Elles n'ont pas la dignité de science. La philosophie peut se critiquer parce qu'elle a atteint l'être premier. Parce qu'elle atteint la finalité propre de l'homme. Parce que, dans sa recherche, la causalité finale est appliquée. Alors elle peut se critiquer. Elle atteint quelque chose d'ultime. Quand on n'a pas atteint quelque chose d'ultime, on ne peut pas se critiquer. On est dans une recherche. Il n'y a rien au-dessus de la philosophie. Première de la théologie naturelle, au point de vue de la lumière de l'intelligence. Et parce qu'il n'y a rien d'au-dessus, elle doit se critiquer elle-même. La critique est nécessaire à la philosophie première et à la théologie naturelle. Elle est nécessaire. Le philosophe doit pouvoir tout le temps se critiquer et par le fait même défendre sa position. Pourquoi dites-vous ça? Comment se fait-il que vous dites ça? Montrez-moi que ce que vous dites est légitime. Donc il doit toujours être prêt à se défendre. Il se critique pour se défendre. Il se critique pour se purifier. Autrement dit, qu'il n'y ait pas d'imagination hâtive qui vienne contaminer sa recherche philosophique. Parce que la critique, c'est toujours pour montrer que l'intelligence est distincte de l'imaginaire. Si l'intelligence était à l'état pur, elle n'a pas besoin de critique. Mais parce que le conditionnement de notre intelligence se fait toujours avec le concours de l'imagination, on a toujours besoin de montrer comment l'imagination veut déborder, aller plus vite, anticiper l'intuition. Les intuitions sont très souvent imaginatives. Les mathématiques ne peuvent rien nous dire du bien. Pourquoi ? Parce que les mathématiques demeurent dans le domaine du possible. Et le bien, il est. Mais les mathématiques peuvent atteindre le beau. La proportion, l'harmonie. Donc la critique, au niveau philosophique, est nécessaire pour toujours purifier l'intelligence et l'empêcher d'être dans ces amalgames imaginaires. Montrez bien quel est le point de départ sur lequel je m'appuie. Vérifier et critiquer l'importance de la saisie des principes propres et montrer jusqu'où je peux aller. Oui, c'est rendre la démarche philosophique limpide, la critique. La sagesse théologique acquise, puisqu'il y a trois sagesses selon saint Thomas, et il n'y en a pas d'autres. C'est pas seulement selon saint Thomas, c'est tout court. Il y a trois sagesses. Donc, sagesse philosophique, sagesse théologique acquise. Trois, sagesse, don de sagesse, don du Saint-Esprit. La sagesse, don du Saint-Esprit, n'a pas de critique. Vous ne pouvez pas critiquer le Saint-Esprit. Que le mystique dit n'importe quoi. La sagesse, don du Saint-Esprit, nous fait garder le silence. Elle ne peut se transmettre qu'avec le cerveau sapientiel. c'est de l'ordre de la théologie fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que la théologie qui se fonde sur la foi et la foi qui me met directement en contact avec la révélation telle qu'elle m'est donnée, la révélation judéo-chrétienne, la révélation de l'Ancien Testament et la révélation du Nouveau Testament dans le Christ, implique nécessairement ces aspects différents. Dieu aurait pu me révéler le même mystère autrement. De fait, il le révèle de cette façon-là. Et j'essaie de comprendre alors, parce que toute ma théologie se fonde sur une révélation qui se donne à travers la parole, à travers les gestes, à travers des hommes. C'est pas indifférent Abraham, c'est pas indifférent Marie, c'est pas indifférent Saint Jean. Je dois être attentif à ça. J'ai pas le droit de pas le mettre. C'est pas indifférent Pierre. C'est pas indifférent au point de vue théologique de l'économie divine. Jean-Paul II, après Jean-Paul Ier. Mais l'économie divine, j'essaie de comprendre le développement de la révélation à travers le temps, dans l'histoire de l'humanité. Et de comprendre que cette conduite du Saint-Esprit à travers l'humanité saisit l'humanité dans ce qu'elle a de plus profond, de plus grand, au sens de la vérité. Si la théologie se fonde sur la révélation, la théologie implique donc la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Premier problème. La théologie fondamentale doit me montrer ce qu'est la foi dans son apport vis-à-vis de l'intelligence humaine. Ça, nous essayerons de le voir, parce que c'est capital. Et ensuite, que peut apporter l'intelligence à la foi ? Second aspect, puisque la théologie, c'est un mixte.
Ces luttes au niveau de la foi ont leur répercussion directe
moi, est toujours en état d'alerte. Est-ce que mon intelligence, transformée en oubli par la philosophie, est-elle capable d'être au service de la foi, de la parole de Dieu? Voyez, si j'ai une intelligence marxiste, marxisée, c'est possible. Si j'étais élevé dans un milieu marxiste, grand-père, père marxiste, tous mes amis marxistes, je suis une intelligence marxisée. Je me convertis. L'Esprit Saint me convertit. Je découvre le Christ. Et je me mets à lire l'Évangile. Tous les termes de l'Évangile ont une signification marxiste pour mon intelligence humaine. Puis-je faire une théologie avec l'idéologie marxiste? On a essayé. Il y a des théologies allemandes, de théologies protestantes, qui sont à partir de l'idéologie marxiste, pour l'espérance, pour théologie du travail, pour, et ainsi de suite. À partir de là, je fais une théologie fausse. Elle est faussée par mon idéologie marxiste. À la place de baptiser le marxisme, je marxisme la foi. Ça arrive. Et au bout du terme, j'ai une théologie qui fait du mal aux chrétiens, qui empoisonne les chrétiens. Voyez le travail d'une théologie fondamentale. Si on avait le temps, on prendrait la théologie moderne. On le lirait ensemble, au séminaire, et puis on verrait les tournants où ils déraillent. Prenez un livre qui serait très intéressant à voir. Ce dernier livre qui a été écrit sur le péché originel par un père jésuite. On lirait ça et on dirait, mais est-ce qu'on a le droit de décrire ça? Est-ce que c'est conforme au Concile de Trente? Puisque Paul VI, après le Concile, il y avait une session à la Grégorienne sur le péché originel. Paul VI qui se déplaçait très peu, a quitté le Vatican pour aller à la Grégorienne. Au début de la session, en leur rappelant, vous avez une session sur le péché originel, très bien. Mais n'oubliez pas que ce que dit le Concile de Trente est toujours en acte. Mais vous pouvez trouver une manière d'exprimer ce que dit le Concile de Trente autrement pour que ce soit plus facile d'être accepté par les savants d'aujourd'hui. Très délicat. Changer la manière de dire. Ça transporte ordinairement la pensée. Pas toujours, hein. Ce que disait Paul VI, c'était très légitime. Mais c'est un travail très délicat qui implique une critique. Voyez ? Je prends un autre exemple. Parce que péché originel, c'est fameux. Alors on prendrait ce livre écrit sur péché originel et on essaierait de comprendre est-ce que c'est encore de la théologie? Ou est-ce que c'est de l'apologétique mal faite? Est-ce que c'est une apologétique légitime ou pas? Je prends un Évidemment, transsubstantiation est reliée à une métaphysique aristotélicienne qui n'a plus cours sur le marché. Donc, il faut changer. Le Saint-Père, alerté, a écrit une encyclique, Mysterium Fidei. Et je passais à Rome à ce moment-là. C'est la veille. Et tout le monde était très ému. Est-ce qu'il y a une encyclique qui va apparaître? Est-ce que le pape, pendant le concile, a le droit d'écrire une encyclique? Ça allait jusque-là. Le concile est légitime parce que le pape convoque le concile. Et donc la faillibilité du pape n'est pas diminuée par le concile. D'ailleurs, on se posait le problème. Est-ce que le pape a le droit d'écrire une encyclique pendant le concile? Est-ce que ce n'est pas donner une petite gifle moralitaire au père du concile en disant c'est plus sûr que je fasse une encyclique? Et le pape dans l'encyclique rappelait qu'on ne devait pas abandonner le terme de transsubstantiation, que les termes transsignification, transfinalité, très bien si on garde transsubstantiation, et que ces expressions ne pouvait pas remplacer théologie fondamentale critique. Voyez, voir si certaines expressions peuvent être changées par d'autres expressions. Donc, c'est tout le temps la théologie fondamentale. Elle est coextensible à toute la théologie. Et elle est fondamentale pour empêcher des déviations. On devrait se poser le problème aujourd'hui. Est-ce que l'herméneutique, dont on parle tout le temps aujourd'hui en théologie, est-elle légitime en théologie? Pour moi, c'est un des grands problèmes qu'on devrait voir aujourd'hui. Je sais qu'à Rome, on s'inquiète de ça. Est-ce qu'on peut parler d'une herméneutique, oui, bien, interprétation? Dire, au Moyen-Âge de saint Thomas, on emploie transsubstantiation. Aujourd'hui, ça n'a plus de signification. Donc, cherchons un autre terme. Concile de Chalcédoine, concile d'Éphèse, donne telle ou telle expression. Aujourd'hui, ça n'a plus cours. Vous voyez, pour vous donner un exemple, et il est réel cet exemple-là, c'est pas moi qui l'invente. C'était à Fribourg. Je connaissais un père dominicain qui enseignait la théologie morale. Alors, il faisait une conférence sur l'herméneutique. Alors, on lui a posé la question. Le Christ dit à Pilate, tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'est donnée d'en haut. Il avait donné des exemples sur l'autorité. Alors on lui a fourré ça entre les pattes. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors il a réfléchi. Il dit, eh bien, au point de vue herméneutique, je dirais, tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait été donnée par la base. C'est un très bel exemple, ça. Puisqu'on dit que l'autorité est donnée par la base. Alors on doit donc changer. Du temps du Christ, on reconnaissait que l'autorité César venait des dieux. Aujourd'hui, l'autorité vient de la base. Président de la République. Alors on doit dire ça. Il faut changer l'évangile dans vos prêchez. Pour que ça passe. Alors, vous voyez, est-ce légitime? N'est-ce pas légitime? Est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est pas légitime? On en prendrait des quantités comme ça, j'en ai tout le temps. Quoi. On a tout le temps des exemples comme ça. C'est très très gros et c'est très important de comprendre ça, vous voyez. Tout ça, c'est la théologie fondamentale. Il faut donc comprendre ce qu'est la théologie. Ce qu'est la foi et comment. c'est bien évident. L'explicite. La théologie explicite. Alors, il y a des explications qui sont légitimes et des explications qui ne sont pas légitimes. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ça n'avait été donné par la base. Est-ce légitime de changer cette parole du Christ en cette autre interprétation? Puisque c'est vrai, la théologie est une herméneutique constante. C'est une herméneutique, c'est une interprétation. Quand on essaie de creuser un peu le mystère, on fait une interprétation. Quand on essaie de comprendre, on fait une interprétation. Alors, est-ce que cette interprétation est légitime ou n'est-elle pas légitime? Jusqu'où est-elle légitime? Et quand, signal d'alarme, ce n'est plus légitime. Et le train doit stopper. La réclamation des théologiens d'aujourd'hui, des universités allemandes surtout, je l'ai entendu, hein, donc, de dire les évêques n'ont aucune autorité sur nous. Rome n'a aucune autorité sur nous. Nous sommes des théologiens scientifiques. Les seuls qui peuvent nous juger, ce sont nos pères, donc d'autres théologiens scientifiques. En théologie fondamentale, où j'ai l'erreur? Voir, dire, vous voyez, ce que vous faites là, ce n'est plus de la théologie. Et tout en comme ça. Le point, ça c'est la théologie fondamentale. Alors, on commence. Mais vous continuerez toute votre vie de théologien. Toute votre vie d'apôtre. Parce que vous serez constamment devant de grosses erreurs comme ça. Et il faudra pouvoir les analyser. Et ça, c'est la théologie fondamentale.